RFI est maintenant 8h à Washington et Port-au-Prince. Bienvenue si vous nous rejoignez, 13h, temps universel.
RFI Midi, Charlotte Hydrac.
Avec l'actualité d'Haïti et des Amériques, se dirige-t-on vers une paralysie budgétaire aux États-Unis, un shutdown, comme on dit. Donald Trump s'oppose à l'accord négocié sur le budget au Congrès. La crise politique au Canada, le gouvernement de Justin Trudeau très fragilisé après le départ fracassant de la vice-première ministre. On sera en ligne aussi avec notre confrère du Nouvelliste à Port-au-Prince, Franz Duval. Dans son éduto, il se demande si les autorités de Port-au-Prince vont passer l'hiver. Et puis on retrouvera nos confrères d'Outre-mer Première pour le Journal des Caraïbes. Benoît Ferrand, on ira en Martinique.
Oui, où le président de la collectivité territoriale s'impatiente. Il interpelle le nouveau Premier ministre sur les engagements de l'État concernant le protocole de lutte contre la vie chère.
A tout à l'heure, Benoît Ferrand. Mais tout de suite, le journal. Avec vous, Gilles Moreau, et ce verdict au procès des viols de Mazan, une affaire devenue symbolique des violences faites aux femmes.
Oui, Dominique Pellicot, l'accusé principal, est condamné par la cour criminelle du Vaucluse à 20 ans de prison. C'est la peine maximale. Pendant de longues années, il avait drogué son ex-épouse à son insu avant de la violer et de la livrer à des dizaines d'inconnus recrutés sur Internet. Pour les 50 co-accusés, les peines vont de 3 ans à 20 ans de prison. Aucun n'a été acquitté, mais c'est bien moins que ce qui avait été requis par le ministère public. Il y a un peu moins d'une heure, Gisèle Pellicot a pris la parole pour réagir à ce verdict. Si ses enfants se sont montrés déçus, elle le respecte.
C'est avec une profonde émotion que je m'exprime aujourd'hui devant vous. Ce procès a été une épreuve très difficile et à cet instant, je pense en premier lieu à mes 3 enfants. Je pense également à mes petits-enfants parce qu'ils sont l'avenir et c'est aussi pour eux que j'ai mené ce combat. Je pense enfin aux victimes non reconnues dont les histoires demeurent souvent dans l'ombre. Je veux que vous sachiez que nous partageons le même combat. J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. J'ai confiance à présent en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle.
Gisèle Pellicot, propos recueillis par Bertrand Eclair. Son ex-mari Dominique Pellicot n'exclut pas de faire appel selon son avocate. Emmanuel Macron est arrivé dans l'archipel de Mayotte, dévasté en fin de semaine dernière par Chido, cyclone meurtrier qui, selon un bilan provisoire, toujours a fait 31 morts et environ 1400 blessés. Le chef de l'État est sur place pour constater l'étendue de la catastrophe et pour apporter son soutien à la population, car tout manque dans ce département français de l'océan Indien, eau, nourriture, médicaments, abri. Mahoré, on va se relever ensemble, a lancé à son arrivée le président sur la messagerie X, avant d'embarquer dans un hélicoptère de la gendarmerie pour un survol du territoire sinistré. Le gouvernement, dans le même temps, a activé l'état de calamité naturelle afin de permettre une gestion plus rapide et efficace de la crise.
Un Conseil européen, pas comme les autres, a commencé à Bruxelles.
Oui, d'abord par sa durée. Il se déroule en une seule journée, comme l'a voulu le nouveau président du Conseil. L'autre raison, c'est qu'il y a un absent de taille, donc Emmanuel Macron, parti à Mayotte. Daniel Valot, bonjour, vous êtes notre envoyé spécial à Bruxelles.
Bonjour.
Le président français est parti hier soir et à ce sommet, il est représenté par le chancelier Olaf Scholz.
Oui, situation assez extraordinaire, mais qui est prévue par les traités européens. Un dirigeant de l'UE a le droit de se faire représenter, mais il faut que son mandataire soit un autre membre du Conseil européen, autrement dit, un autre dirigeant européen. Et c'est donc Olaf Scholz qui va jouer ce rôle au nom, a dit ce matin le chancelier allemand, de la solidarité européenne. Écoutez-le.
C'est l'occasion pour moi de représenter mon ami Emmanuel Macron et la France, puisqu'il s'est rendu à Mayotte. C'est très important, car c'est une terrible catastrophe naturelle qui a frappé Mayotte, et nous sommes tous du côté de la France.
Et Et si Emmanuel Macron a demandé à Olaf Scholz de le représenter, c'est au nom de la coopération franco-allemande. Mais dans le contexte actuel, c'est loin d'être un choix évident. D'abord parce que les deux hommes n'ont pas vraiment d'atomes crochus. Et ensuite, parce qu'il existe aujourd'hui du Mercosur au nucléaire de nombreux sujets de tension entre Paris et Berlin. Cela dit, aucun de ces sujets qui fâchent ne sera abordé aujourd'hui à Bruxelles. Et l'Élysée précise d'ailleurs que les grandes lignes des conclusions finales de ce sommet ont déjà été adoptées. Pour cela, Emmanuel Macron, eh bien, il peut remercier le nouveau président du Conseil européen, l'ancien Premier ministre portugais Antonio Costa, qui veut bousculer les habitudes ici à Bruxelles en préparant davantage en amont ces conseils européens pour tenter de les resserrer sur une seule journée.
Daniel Valot en direct de Bruxelles, merci à vous. L'Ukraine est bien sûr au menu des discussions à ce Conseil. Son président Volodymyr Zelensky est à Bruxelles. Les 27 doivent aussi affiner leur stratégie commune sur la Syrie à l'heure de l'après-Assad. Ils vont réaffirmer les conditions d'une reprise de leurs relations avec Damas. Oriane Verdier, bonjour, vous êtes sur place en Syrie, précisément à Damas, sur l'emblématique place des Omeyyades.
Oui, bonjour.
La société civile, Oriane, est appelée à manifester pour faire valoir ses droits auprès des nouvelles autorités.
Oui, autour de nous, au moins 200 personnes ont déjà commencé à se rassembler alors que nous sommes juste à l'heure du rendez-vous partagé via les réseaux sociaux. La foule grossit de minute en minute. Nous nous trouvons donc au pied d'un imposant monument, c'est l'épée de Damas, symbole de la ville. Il y a quelques jours, ici même, les Damasciens se rassemblaient pour célébrer la chute de Bachar al-Assad. Et aujourd'hui, c'est pour protester, demander aux autorités au pouvoir de respecter le droit des citoyens syriens et de mettre en place un gouvernement civil. Pour l'heure, les autorités sont toutes issues du gouvernement d'Idleb de la région Kayat Tahrir al-Sham, contrôlée déjà avant le lancement de l'offensive jusqu'à Damas. Autour de nous, donc, des jeunes, des plus âgés et une inquiétude particulièrement celui du droit des femmes. Car hier, le porte-parole d'Ayat Tahrir al-Sham a eu des propos, a affirmé qu'il ne voulait pas que les femmes fassent partie de l'autorité de transition, car jugées trop sensibles pour avoir de tels postes d'autorité. Autour de nous aussi, il se trouve plus à l'écart des membres des forces armées d'Ayat Tahrir al-Sham. C'est aussi une grosse question, comment va se passer la gestion de ce rassemblement, puisque depuis Idlib, on entend la dénonciation d'arrestations d'opposants et de répression de manifestations.
C'était Oriane Verdier en direct de Damas. Merci à vous, Oriane. Les violences en Cisjordanie occupée. Le ministère palestinien de la Santé annonce que 4 personnes ont été tuées et 3 autres blessées lors d'une frappe israélienne sur un véhicule près de la ville de Toulkarem. 4 fonctionnaires français accusés d'espionnage et détenus depuis un an au Burkina Faso ont été libérés. Les informations de la presse marocaine ont été confirmé à Ouagadougou et à Paris par la Direction générale de la sécurité extérieure. Dans cette affaire, le Maroc a joué un rôle de médiateur entre la France et le Burkina.
L'actualité politique en France.
Presque une semaine après sa nomination, le Premier ministre François Bayrou continue de consulter en vue de former son gouvernement. Gouvernement qui soit capable de durer plus longtemps que celui de son prédécesseur Michel Barnier. Un temps fort actuellement, les forces politiques du pays ont été conviées à une réunion à Matignon. Victorien Guillaume, vous êtes sur place, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à toutes et à tous.
C'est la suite, Victorien, de plusieurs jours déjà de consultations.
Oui, mais cette fois, Gilles, nouvelle formule. Hein. Tous les représentants de partis sont conviés au même moment, à peu près 30 invités au total qui défilent hein, depuis une vingtaine de minutes dans la cour de Matignon. Une sorte de table ronde comme Emmanuel Macron avait organisé la semaine dernière. Et cette fois encore, eh bien, la France Insoumise et le Rassemblement National n'ont pas reçu leur carton d'invitation. Alors François Bayrou, lui, ambitionne toujours de dévoiler son gouvernement dans les prochains jours. Ça pourrait tomber dès ce week-end. Et en attendant, le nouveau locataire de Matignon est mis sous pression par chaque parti, avec à gauche l'idée d'un accord de non-censure qui est loin d'être gagné. Les socialistes disent leur inquiétude dans un communiqué. Ils appellent François Bayrou au compromis. Même chose chez les écologistes. Marine Tondelier, qui est allée à la rencontre des journalistes il y a quelques minutes hein, dans la cour de Matignon, affirme qu'elle croit de moins en moins chaque jour, chaque heure, qu'un chemin est possible. Et de l'autre côté du spectre, à droite chez les Républicains, qui faisait partie je le rappelle, du précédent gouvernement, on continue d'affirmer qu'il y a toujours trop de flou concernant le projet du Premier ministre centriste et la participation des LR au gouvernement n'est pas acquise. On verra ce qu'il ressort de cette grande réunion cet après-midi.
Victoria Villaume en direct de l'hôtel de Matignon. Merci à vous. Voilà, très bonne journée à vous tous sur RFI, tout de suite en compagnie de Charlotte Hydrac.
8h10 à Washington. Good morning.
RFI Midi. L'actualité d'Haïti et des Amériques.
Se dirige-t-on vers une paralysie budgétaire aux États-Unis ? Donald Trump s'est opposé à un accord sur le budget au Congrès et cela inquiète notamment dans la presse américaine. Bonjour Abla Jonaïdi.
Bonjour.
Le spectre donc du shutdown, autrement dit l'arrêt de l'administration faute d'accord sur le budget, ressurgit. La faute en partie à un homme, et cet homme, c'est Elon Musk.
Oui Charlotte, si Donald Trump a critiqué l'accord, ce serait à cause d'un cercle d'acteurs extérieurs influents dans son entourage, nous dit le New York Times. Une référence en effet, entre autres, au milliardaire patron de Tesla. C'est lui qui s'est déchaîné toute la journée d'hier contre le projet de loi sur sa plateforme X, poursuit le New York Times. Elon Musk avait tweeté notamment ceci: tout membre de la Chambre des représentants ou du Sénat qui vote pour ce projet de loi de dépenses scandaleux mérite d'être évincé dans 2 ans. Pour lui, comme une large frange du Parti républicain à la Chambre, c'était un projet de loi de compromis rempli de priorités politiques démocrates, précise le Washington Post. De quoi enrager le sénateur de gauche Bernie Sanders, qui rappelle dans The Hill que démocrates et républicains ont passé des mois à négocier ce texte. Les milliardaires ne doivent pas être autorisés à diriger notre gouvernement, a fustigé l'élu. Pour le journal de gauche Mother Jones, c'est une dérive. Donald Trump est en train de constituer un gouvernement de milliardaires comme les États-Unis n'en ont jamais vu. Elon Musk, le gouverneur du Dakota, Doug Burgum, le patron du fonds spéculatif Scott Bessent, tous figurent dans la future équipe gouvernementale. En tout, 15 milliardaires seraient en lice pour des postes au sein de l'administration Trump, recense Mother Jones, du jamais vu.
Et donc à moins de trouver un accord d'ici demain soir, vendredi soir, le gouvernement risque de fermer ses portes.
Oui, le président de la Chambre, le républicain Mike Johnson, envisage donc un plan B, titre The Hill. L'option de secours, c'est une résolution qui impliquerait d'abandonner les dispositions supplémentaires qui figuraient dans le projet de budget initial, notamment l'aide aux sinistrés et l'assistance économique aux agriculteurs. Une mesure provisoire qui permettrait de tenir jusqu'à mars prochain. Mais même cette option est très incertaine, selon le New York Times, car elle laisse tomber plusieurs mesures chères aux démocrates.
Restez avec nous, Abla Jonaïdi. On vous retrouve pour la suite de votre revue de presse des Amériques. Donald Trump qui trouve par ailleurs que ce soit une excellente idée que le Canada devienne le 51e État américain. Le président élu l'a dit sur son réseau social, alors que le Canada, là, est en pleine crise politique. On en parlait hier, la numéro 2 du gouvernement, Chrystia Freeland, a lancé une bombe lundi en démissionnant avec fracas de son poste de ministre des Finances, et depuis plusieurs députés réclament le départ de leur chef, ce qui entraînerait la chute du gouvernement. En ligne de Montréal, nous sommes avec Pascale Guéricola, notre correspondante. Bonjour.
Bonjour.
Alors d'abord, comment expliquer que la vice-première ministre canadienne soit partie en claquant la porte, sachant que c'était une proche de Justin Trudeau?
Officiellement, celle qui a toujours soutenu Justin Trudeau depuis son élection il y a 9 ans dénonce dans une lettre ouverte la suspension d'une taxe de vente décidée par le premier ministre. Une mesure électoraliste à ses yeux, alors que le Canada a particulièrement besoin de ses fonds publics pour soutenir les entreprises menacées par des droits douaniers américains de 25%. Dans les faits, Chrystia Freeland a peut-être voulu se venger du premier ministre. Il lui avait annoncé quelques jours plus tôt lui retirer le portefeuille des finances pour la nommer à un poste moins prestigieux. Quoi qu'il en soit, le départ de celle considérée jusque-là comme la plus proche collaboratrice de Justin Trudeau semble avoir libéré la parole des députés de son parti. Plusieurs s'étaient déjà fait entendre cet automne. Mais là, les avertissements se précisent.
C'est un regret, mais je ne vois plus de pistes et je souhaite que M. Trudeau réfléchisse à son avenir.
Je crois que oui, qu'il doit quitter en ce moment, qu'il faut qu'il y ait un changement de leadership au niveau du Parti libéral du Canada.
C'est important qu'on ait un processus pour choisir un nouveau chef.
Et alors le message est clair. Comment réagit le principal intéressé?
Pour l'instant, le Premier ministre ne répond pas aux questions des journalistes. Il a d'ailleurs annulé toutes ses entrevues de fin d'année avec les médias. Mardi soir, il a pris la parole lors d'une fête de Noël de son parti. en minimisant la crise qu'il compare à une dispute familiale. Tout semble indiquer qu'il joue la montre à l'approche des fêtes, alors que le Parlement ne siège plus pendant plusieurs semaines. Peut-être Justin Trudeau va-t-il annoncer son départ et le déclenchement d'une campagne électorale en janvier. Au moment d'ailleurs où le président américain Trump entrera en fonction, lui qui a promis d'imposer des tarifs douaniers de 25% sur les exportations canadiennes si la frontière n'est pas sécurisée. Voici l'analyse de Geneviève Tellier, politologue à l'Université d'Ottawa.
Ça ne pouvait pas plus mal tomber que ça. Alors là, vous avez Justin Trudeau qui a perdu sa légitimité comme chef d'État pour aller négocier avec d'autres chefs d'État. Monsieur Trump le sait très bien, donc maintenant, pour lui, il trouve ça très drôle, il l'appelle le 51e gouverneur des États-Unis. Pendant qu'on discute du leadership du premier ministre puis d'une possible élection fédérale, on ne parle pas d'échange avec les Américains. Et ça va être d'autant plus vrai si on est en campagne électorale. Parce qu'en campagne électorale, la Convention veut qu'aucune décision se prenne durant les 36 jours minimum de la campagne électorale. Ça veut dire aussi aucune négociation avec les Américains. Donc, est-ce que pendant 36 jours, on fait rien? Effectivement, on est en position de faiblesse.
La politologue Geneviève Tellier. À qui profite finalement, Pascal, cette situation au Canada?
Certainement au Parti conservateur, à qui cette crise donne littéralement des ailes. Rarement un parti canadien n'a été crédité d'autant d'intentions de vote, tandis que le Parti libéral au pouvoir n'en finit plus de poursuivre sa chute. Cependant, si le Canada ne dispose pas d'une voix forte pour faire baisser les tarifs douaniers avec le président Trump, c'est toute l'économie qui va en pâtir. Trois quarts des exportations de ce pays partent en effet aux États-Unis.
Pascal Guéricola, correspondante de RFI à Montréal. On vous retrouvera pour suivre donc ces soubresauts politiques au Canada.
RFI, la radio del mundo.
C'est une petite révolution à Cuba. Le gouvernement vient d'annoncer le rétablissement d'un taux de change flottant pour le peso. Une nouvelle tentative pour le régime communiste au pouvoir depuis 65 ans de sortir l'île de la crise économique. Nathanaël Vitran, l'inflation très élevée pèse particulièrement sur la vie quotidienne des Cubains.
Oui, sur un an, les prix ont encore augmenté de près de 30% en octobre. C'est certes moins pire qu'en 2021, quand l'inflation frôlait les 70%, mais cela reste très préoccupant. Une inflation alimentée par le décalage entre le taux de change officiel, fixé à 120 pesos pour un dollar, et la réalité du marché informel, où il faut 320 pesos pour obtenir un dollar. C'est une réalité nouvelle pour les Cubains. Ces marchés parallèles sont apparus en même temps que l'arrivée d'acteurs privés dans une poignée de secteurs après des décennies d'économie administrée à 100%. Un an après ces réformes qui sont loin d'avoir sorti Cuba du marasme économique, le Premier ministre Manuel Marrero a expliqué qu'il était nécessaire de laisser le taux de change varier en fonction de l'offre et de la demande, tout en précisant que cela se ferait de manière progressive. En attendant, la crise pousse de plus en plus de Cubains à l'exil. La population de l'île est tombée en juillet dernier sous la barre des 10 millions d'habitants.
Alors, qu'est-ce qu'on en dit, Abla Junaidi, dans la presse cubaine, ce rétablissement d'un taux de change flottant pour le peso? Le Premier ministre cubain a reconnu que la situation était devenue hors de contrôle.
Oui, Manuel Marrero, qui a annoncé la mesure, a reconnu en effet que la dollarisation informelle de l'économie échappait au gouvernement, souligne Cybercuba. Le nouveau système couvrira les secteurs suivants, le commerce de gros et de détail et tous les services liés au commerce extérieur, poursuit le média basé à l'étranger. Loin de nier la situation critique de l'économie, entre les problèmes du réseau électrique et le déficit des capacités de production et l'inflation qui étrangle la population, le quotidien pro-régime Granma insiste quand même sur les limites imposées par le blocus américain et les effets néfastes de la crise économique mondiale. Le média ADN Cuba, basé hors de l'île, fait le parallèle entre cette réforme et les propositions de dialogue que le régime castriste a fait à Washington ces derniers jours. En 2016, lors de la première victoire de Donald Trump, le régime cubain avait assuré qu'il pouvait dialoguer, mais sans jamais faire de concessions finalement sur des sujets vitaux comme la démocratie et le respect des droits de l'homme, rappelle ADN Cuba.
Et on part tout de suite en Haïti.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Nous sommes en ligne, comme chaque semaine, avec Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste à Port-au-Prince. Bonjour.
Bonjour.
Franz, la fin de l'année approche et à la une du Nouvelliste, vous vous demandez dans l'édito si les autorités de Port-au-Prince vont passer l'hiver. Et il faut dire que les alarmes se multiplient en cette fin d'année.
Alors, on se demande aussi si Port-au-Prince va passer l'hiver comme capitale d'Haïti. Port-au-Prince est en train d'être assauté par les gangs qui attaquent les quartiers les uns après les autres. Cela pose un défi sécuritaire immense. En même temps, les politiciens, les membres du Conseil présidentiel de transition sont acculés, sont accusés de mener une transition qui ne va nulle part. Il y a des membres du Conseil qui sont pointés du doigt parce qu'ils sont indexés dans une affaire de corruption. Mais il y a surtout tous les partis politiques qui sont partis à ce Conseil présidentiel qui sont en train de dénoncer le Conseil lui-même. Que ce soit le parti Famille Lavalas de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, que ce soit les autres partis politiques. Et hier soir, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ouest, la plus importante du pays, qui est représentée au sein du Conseil, a aussi dénoncé ce Conseil. Alors, est-ce que le Conseil va passer l'hiver? Est-ce que Port-au-Prince ne va pas tomber comme toutes d'autres capitales sont tombées et dans le passé dans d'autres pays? On se pose la question au Nouvelliste.
Il y a tout de même une petite lueur d'espoir. Elle vient, Franz, de Washington. Vous revenez sur le renouvellement de la loi dite Hope Help au Congrès américain. Alors, ça peut paraître obscur comme ça, mais en fait, cette loi est vitale pour l'industrie d'Haïti. Expliquez-nous pourquoi.
Tout à fait. La principale exportation d'Haïti, ce sont les produits de la sous-traitance. La sous-traitance, ce sont des usines qui créent des emplois précaires, mais qui sont les seules usines qui créent des emplois en Haïti. Et le principal marché, c'est les États-Unis. On exporte vers les États-Unis pour plus d'un milliard de dollars de biens manufacturés. Il se trouve que cette loi est essentielle car la loi Hope permet à Haïti d'exporter ses productions vers les États-Unis sans payer de droits de douane. C'est très important pour Haïti. Jusqu'à présent, ça traîne depuis 4 ans le renouvellement de la loi Hope. La loi a été inscrite pour être passée cette semaine avant le 20 décembre. On espère que ce sera voté, mais pour le moment, il y a une petite fenêtre, une petite lueur d'espoir pour que cette loi puisse permettre à Haïti de continuer à exporter sans droits de douane vers les États-Unis.
Et puis, à l'approche du bicentenaire de la dette imposée par la France à Haïti, vous revenez dans le Nouvelliste sur le regain d'initiative autour de cette question sensible, à commencer par la mise en place d'un comité national haïtien des restitutions et des réparations. Alors, de quoi s'agit-il ?
C'est un regroupement d'universitaires autour de l'Université d'État d'Haïti qui essaie de remettre sur le tapis le mouvement de restitution et de réparation. Il faut dire que l'année prochaine, en avril 2025, cela va faire 200 ans depuis que la France avait signé un traité avec Haïti, traité qui a imposé à Haïti le paiement d'une restitution aux anciens propriétaires d'esclaves en Haïti, 90 millions de francs de l'époque. Pour payer cette somme, Haïti a dû emprunter auprès des banques françaises. C'est ce qu'on appelle en Haïti la double dette. Et aujourd'hui, on reparle de ce dossier. Ça fait une vingtaine d'années dont on n'avait plus parlé. Mais c'est le dossier de restitution et de réparation. Pour le moment, ce sont les universitaires. Le gouvernement ne s'est pas encore prononcé officiellement. Il n'y a pas encore de décision du gouvernement. Mais les universitaires souhaitent que l'année 2025 soit instituée année de la restitution française à Haïti.
Et tous ces sujets sont donc développés à lire dans votre journal Le Nouvelliste. Merci à vous, Franz Duval. Très bonne journée à Port-au-Prince où il est pile 8h23. En tout cas, à New York et à Washington, on repart aux États-Unis avec vous, Abla Jounaïdi. On le disait tout à l'heure, le budget est bloqué au Congrès américain, mais il y a une autre loi qui, là, devrait passer très facilement comme une lettre à la poste. Cette loi, elle vise à faire du pigargue à tête blanche, l'emblème national officiel des États-Unis.
Oui, cette loi est passée même lundi, en fait, Charlotte. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, celui qu'on appelle par erreur l'aigle américain n'était pas encore le symbole officiel.
On l'a forcément
dans
toutes les têtes.
Oui, il est partout dans l'iconographie des États-Unis. Un projet de loi bipartisan en ce sens, adopté lundi, est sur le bureau de Joe Biden, attendant de recevoir sa signature, nous apprend USA Today. Derrière ce texte, les efforts des élus du Minnesota qui voulaient à tout prix consacrer ce rapace robuste, représentant selon eux la force, le courage et surtout la liberté. Derrière ce texte de loi, il y a aussi l'obsession d'un homme, un habitant du Minnesota, fasciné par l'animal et qui a contribué à le sortir notamment de la liste des espèces en voie d'extinction. Preston Cook, interrogé en longueur dans le magazine Audubon, l'organe de la fondation spécialisée dans la protection des oiseaux, applaudit une décision qui, selon lui, corrige une erreur de longue date. Nous avions un mammifère national, le bison, un arbre national, le chêne, et une fleur nationale, la rose. Le pygargue à tête blanche méritait certainement le même niveau de reconnaissance, confie ce collectionneur fou de statues de l'animal dans Audubon.
Et donc on apprend que le pygargue n'est pas un aigle, l'aigle américain, comme on avait l'habitude de le dire. Abla Jounaïdi pour la revue de presse des Amériques, c'est à retrouver sur RFI.fr.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de la Première et avec vous, Benoît Ferrand, en Martinique, donc le président de la collectivité territoriale s'impatiente. Il demande au nouveau Premier ministre de tenir la parole de l'État.
Serge Letchimy interpelle François Bayrou sur l'engagement de l'État concernant le protocole de lutte contre la vie chère. Engagement financier visant à faire baisser les prix sur un certain nombre de produits. Écoutez le président de la CTM au micro de Manuel Larade.
La collectivité a signé un protocole. La collectivité va enclencher le processus de la mise en œuvre du protocole. Point très à la ligne. Bien entendu, on connaît les aléas du gouvernement, on en tient compte, mais il y a des choses qu'on peut mettre en place tout de suite, dès début janvier. C'est-à-dire, nous avons voté à deux reprises la mise à niveau zéro de notre point de mer. Le processus est enclenché depuis mi-décembre. Et ça veut dire que les produits vont progressivement être à taux zéro. Il n'est pas question pour moi de faire cet acte-là sans que les autres ne puissent réagir. Je demande donc aux distributeurs d'agir, notamment sur leur marge arrière, pour baisser les marges et respecter cet engagement-là. Troisième chose, je demande à l'État de prendre ses responsabilités pour pouvoir appliquer la première compensation, ce que j'appelle la continuité territoriale, qui permettrait de diminuer le coût des produits entre l'Hexagone et ici.
Un tout autre sujet maintenant, la HAS, Haute Autorité de Santé, qui a donné son feu vert, c'est officiel, à l'utilisation d'un vaccin contre la dengue dans les 5 départements français d'outre-mer. Explication Jordi Rayapin de la Première Guadeloupe.
Les publics ciblés en priorité sont les enfants de 6 à 16 ans ayant déjà été infectés par la dengue et les adultes de 17 à 60 ans présentant des comorbidités avec ou sans antécédents d'infection. Qu'est-ce que donc que ce vaccin Qdenga ? Commercialisé par le laboratoire japonais Takeda, il a obtenu une autorisation de mise sur le marché européen en décembre 2022. Selon la Haute Autorité de Santé, il a montré une efficacité dans la prévention des 4 sérotypes de la dengue dite symptomatique, à hauteur de 80% pour le sérotype 2, un peu moins toutefois pour le sérotype 3. En cas d'hospitalisation, cette efficacité se renforce. Peu d'informations toutefois sur son action contre les dengues sévères en raison d'un faible nombre de cas rapportés. D'après les autorités sanitaires, le vaccin Qdenga est bien toléré par les patients. 2 doses espacées de 3 mois, c'est ce qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé.
Bon après-midi, Charlotte. À demain.
À demain. Merci à vous, Benoît Ferrand. Et j'ajoute que dans l'océan Indien, parallèlement à Mayotte, le président français Emmanuel Macron est sur place après le passage du cyclone Chido. Il vient d'annoncer un fonds d'indemnisation pour les non-assurés. Il dit vouloir rebâtir Mayotte, je cite, avec de nouveaux critères et renforcer la lutte contre l'immigration clandestine. Emmanuel Macron qui est à Mayotte jusqu'à demain. It's all I can do. Wait till it's gone. Avis à ceux qui nous écoutent à Mexico, le musicien norvégien Erlend Hoy et son groupe La Comitiva sont ce soir en concert là-bas à Mexico. Et tout de suite, leur morceau For the Time Being. Voilà, Erlen Haui et son groupe La Comitiva en concert ce soir à Mexico. RFI Midi, merci à Vincent Biteau qui est là derrière la vitre en régie. Merci à Emmanuel Klotz et Dominique Bayard à la rédaction en chef. On va retrouver dans un instant Chantal Leroux pour l'émission de Vive Voix. Elle reçoit Rachida Brakni pour son livre Kadour. Très bonne journée à vous et à demain.
RFI Midi.